Au nom de la liberté.
Une série documentaire de Radio Zinzine en 8 épisodes.
Il est où le mégaphone?
Il est là-bas. Il est derrière sur le...
John, tu peux le prendre et faire « Allez !» à chaque fois. Tu peux prendre le mégaphone et à chaque fois faire « Allez !» Il est là, il est là.
Au nom de la liberté.
Une réflexion autour de la notion de liberté, s'appuyant sur l'expérience du Café des Libertés à Fort-Calquier.
Les prises de son de terrain s'étalent entre janvier et avril 2022.
Épisode 3.
Alors que la politique a uni et rallié à certaines époques, aujourd'hui, la méfiance envers les organisations politiques traditionnelles pourrait amener à penser que l'apolitisme est la clé pour rassembler.
Au Café des Libertés.
Non, il y a 2-3 choses. Au début, on s'est dit apolitique, ça c'était vraiment important, et asyndical.
Ben c'est ce qui fait que tout le monde a toujours plaisir à venir ici parce qu'on ne nous catalogue pas comme étant syndiqués, partis politiques.
En tout cas, moi, la manière dont je perçois le mouvement, un truc organique là, qui est sorti et sans vision politique forcément derrière. Et forcément, on se fait rattraper par la politique dès qu'on fait un truc dans la cité, donc c'est évident. Mais en tout cas, il y avait ce truc-là où c'était... au début, il n'y a pas eu cet enjeu-là, quoi.
Moi, j'explique que, en fait, la politique, c'est pas la politique politicienne. Politique politicienne, c'est pas de la politique, de toute façon. Et en fait, la politique, c'est ce que tu fais sur le terrain tous les jours. Tu fais de la politique quand tu fais marcher ton... Enfin, quand tu fais des actions au niveau local, quand voilà, ça, c'est de la politique de terrain. Moi, je crois à cette politique de terrain. Moi, je pense que si vraiment il y avait une politique de terrain comme ça partout en France, mais... Qu'est-ce qu'ils font? On vote pas, on va pas voter, on va pas dans les urnes, on fait pas... Voilà, Coluche il disait, de toute façon, si voter ça servait à quelque chose, ça fait bien longtemps que ce serait interdit.
Lors de la réalisation de ce documentaire, une écoute publique a eu lieu. Les réactions de certaines personnes du Café des Libertés à l'égard de notre travail ont été très vives. Un des principaux reproches qui nous a été adressé est que les questions que l'on traite ne sont pas celles qui existent là-bas, que leur intention était de rassembler au-delà des questions de société clivantes, que notre démarche rejoue le jeu des dominants et divise.
Si nous partageons avec le Café des Libertés l'intention et la nécessité de composer avec une pluralité de regards, les manières de penser et de mettre en œuvre cette nécessité sont bien différentes. Notre démarche ne consiste pas à invisibiliser les divergences, mais à les examiner. S'ouvrir à d'autres visions du monde ne signifie pas pour nous une acceptation inconditionnelle à toute forme de pensée, dans ce qu'elles peuvent engendrer de réalités concrètes.
2022 est l'année de remise en cause du droit à l'avortement par la Cour suprême aux États-Unis, l'année de l'accession au pouvoir de Giorgia Meloni en Italie. On s'inscrit toujours dans un contexte. Les questions que la rencontre avec le Café des Libertés soulève pour nous ne sont pas les siennes. Cependant, il les porte malgré lui.
Pour tenter de clarifier notre trouble, nous sollicitons des voix alentour, de personnes extérieures au mouvement.
Dès le départ, en fait, il y a quelque chose qui est profondément politique, en réalité, dans la manière dont les gens s'organisent et puis dans pourquoi ils sont là et pourquoi est-ce qu'ils font des choses ensemble. En tout cas, il y a la volonté d'intervenir politiquement dans un espace. C'est éminemment politique.
Le premier versant de la liberté comme démocratie, on va dire, partage du pouvoir, c'est la conception spécifiquement antique de la liberté.
Aurélien, auteur du livre « Terre et liberté ».
Pour les Grecs notamment, qui ont, à qui on associe souvent le concept de liberté, même si il y a des occurrences bien sûr de l'idée de liberté avant les Grecs. Mais voilà, les Grecs, on dit qu'ils ont inventé la démocratie, ils ont inventé au moins le mot. Des pratiques de partage du pouvoir, elles existaient déjà depuis longtemps sous d'autres formes. Mais en effet, il y a eu un moment dans la culture grecque qui est assez important dans notre imaginaire occidental, dans notre imaginaire politique occidental, qui est le moment de la démocratie grecque, où les rois et les aristocrates qui avaient l'habitude de monopoliser le pouvoir ont dû partager le pouvoir avec l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire non pas tout le monde, puisque les citoyens désignaient une catégorie très restreinte de personnes, c'était sans doute 20% maximum de la population totale, c'était les hommes libres, c'est-à-dire ceux qui portent les armes, par opposition aux esclaves. Donc ça faisait une petite minorité, mais ça faisait quand même, pour une ville qui a compté entre 100 000 et 200 000 habitants, ça faisait entre 20 000 et 40 000 personnes qui se réunissaient régulièrement pour discuter les grandes questions engageant l'allocation des ressources collectives et le destin commun de la communauté. Voilà, la liberté, il y a tout cet imaginaire-là de partage de pouvoir, de souveraineté populaire, donc de démocratie contre les formes oligarchiques ou monarchiques de pouvoir. C'est l'idée de liberté sans doute fondamentale qu'on hérite de l'Antiquité.
Que ce soit les ronds-points des Gilets jaunes ou l'ASDAQ à Forcalquier ou d'autres endroits. Ce sont des lieux qui sont des lieux de subjectivation politique pour les personnes qui y passent du temps. Les gens qui viennent traîner à l'ASDAQ, qui sont venus sur les ronds-points, qui vivent une expérience de rencontre, une expérience intense politiquement, une expérience d'organisation, de la possibilité de, je sais pas, de la diversité, enfin de soudain avoir la possibilité d'avoir un immense espace comme ça dans lequel on peut faire plein de choses, faire se rencontrer des sortes de, je sais pas, de dynamiques, des gens, tout ça, c'est quand même un truc un peu, enfin c'est un peu dingue quand même dans une vie. Et du coup c'est extrêmement puissant ce que ça produit chez les gens qui viennent y passer du temps. Et là il y a aussi une responsabilité politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu produis, enfin t'es responsable de la direction dans laquelle va l'espèce de puissance que t'es en train de produire collectivement pour les gens qui viennent, qui passent du temps et tout ça. Enfin du coup, si jamais c'est pas la même chose sur un... Bah politiquement, c'est pas la même chose si jamais il y a, je sais pas, 1000 faf qui sortent de l'expérience de l'ASDAQ ou si jamais il y a 1000 personnes qui ressortent de là en étant sur des formes, des intitulés politiques ou un peu des valeurs comme ça qui sont plutôt autour des trucs, des valeurs d'émancipation ou des valeurs, je sais pas, plus proches d'une certaine gauche ou quoi.
Effectivement, tu as une responsabilité, une image publique, etc.
Personne rencontrée au Café des Libertés.
Quand ton groupe monte en puissance, il y a des gens qui vont se rallier à ta cause. Effectivement, si à un moment tu ne te positionnes pas et que tu n'arrives pas à clarifier les choses, oui, tu portes une responsabilité de des actes, de l'image que tu donnes, déjà dans la vie individuelle, sans que ça soit médiatisé.
Parce que là, en fait, collectivement, les gens sont responsables du fait que Merlin a laissé, enfin, Merlin ou d'autres, hein, en tout cas, qu'il y a des personnes comme ça qui ont la possibilité de définir, enfin, ou la possibilité de ne pas définir les lignes politiques et ce qui est raconté des lignes politiques du mouvement.
Personne alentour ne faisant pas partie du Café des Libertés.
Malgré des désaccords, malgré des dissensus internes, j'imagine, et des discussions qui doivent exister. Bon, peut-être que ça, du coup, ça vient permettre de séparer ces espèces de deux espaces de responsabilité là, qui seraient celui vers l'extérieur et celui à l'intérieur du lieu. Peut-être que si Merlin est une figure visibilisée volontairement comme quasiment une espèce d'outil de com autour d'un truc un peu pratique comme ça, d'avoir un truc, quelque chose de très incarné autour d'une figure comme ça, enfin voilà, c'est pratique hein. Pour les médias, ça rend les choses lisibles et tout ça. Peut-être que du coup, ça engage une forme de responsabilité vers l'extérieur, tu vois, vers les médias, vers les élus, vers l'extérieur du mouvement.
Dans ce moment précis-là, puisque là, au moment où je pars, on est juste avant les présidentielles.
Personne alentour, extérieur au mouvement.
Et même de fait, au-delà des présidentielles, nous sommes dans une montée du fascisme en France, mais partout en Europe, voire dans le monde, dans plein d'endroits. Alors ça va, ça vient, il y en a qui arrivent en Amérique latine, puis qui repartent, etc. Mais on est face vraiment à des mouvements des gouvernements qui sont qui ont des valeurs d'extrême droite et une banalisation de l'extrême droite. Et aujourd'hui, il y a une urgence, vraiment une urgence, à s'opposer à ces mouvements-là et avoir un discours qui soit aussi sur les classes sociales, parce que là, c'est réapproprié par l'extrême droite.
Bon, c'est un exemple, mais voilà, quand il y a ce type, là, le cuisinier rebelle, l'espèce de gars sur Twitter, néo-nazi, là, qui s'est fait virer son compte, qui est venu au Café des Libertés et qui s'affiche avec des gens du Café des Libertés, de l'ASDAQ et tout ça, sur les réseaux sociaux. En fait, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible et qui n'est pas tenable.
Mais Yannick, c'est sûr, putain, bon, c'est marrant parce qu'il est sorti, il y a un troll, là, une poule verte, qui n'arrête pas de m'insulter sur les réseaux sociaux.
Merlin, initiateur du Café des Libertés.
Qui a sorti une photo où on était ensemble, puisque on était ensemble, il est venu 4 jours chez un ami à moi. Et du coup, en fait, il s'est présenté comme étant un journaliste qui, je ne connaissais pas plus que ça, comme un journaliste qui faisait des émissions avec des interviews, il faisait des trucs de cuisine et en même temps il posait des questions, machin, tout ça. On a fait une interview. Et interview du coup qu'il a sorti et que je lui ai demandé de supprimer une fois que j'ai su qui c'était, quoi. En fait, il s'est présenté comme étant, il a apparemment une chaîne au Canada. Bon, moi je ne regarde pas sa chaîne au Canada, il s'est présenté comme un journaliste. Bon, allez, je ne me suis pas renseigné sur vous.
Moi, j'en ai discuté hein, avec les copains du Café des Libertés. Voilà, et je voyais aussi passer des posts où il y a des gens qui faisaient passer des messages de Philippot, quoi. Donc, moi, j'étais là en mode « Attends, il faut que j'arrive à en parler. » Donc, j'en ai parlé. Et en fait, qu'est-ce qu'on m'a répondu ? On m'a dit « tu crois qu'on est des fachos, là, gros, ou quoi ?»
Bah, y a un truc que j'ai jamais dit, mais que je veux pas. Enfin, je dis, on n'est pas d'extrême droite, on refuse l'extrême droite carrément. Mais les gens entendent, on est d'extrême droite quand je dis ça. Donc c'est pour ça que je le dis pas.
C'est là où ça me pose un problème, le Café des Libertés, c'est qu'il n'y a pas de discours par rapport à ça. Il n'y a pas une pensée élaborée, même très simple, une sorte d'antifascisme de base qui serait publique, édite.
Il y a quelque chose qui peut ressembler. Effectivement, un peu au gilet jaune et à ce qui a pu se passer. J'ai l'impression qu'il y a des formes de trajectoires assez similaires finalement, et notamment dans des formes de références qui peuvent y avoir, enfin qui peut y avoir. Mais notamment sur ce truc de drapeau, et c'est pour ça qu'ils ont été convoités par quand même pas mal de gens, et notamment par l'extrême droite à un moment, parce qu'il y avait cette espèce de référence-là que potentiellement il y avait moyen d'accrocher.
Et pour moi, ces espaces-là ressemblent beaucoup au rond-point des gilets jaunes. Je fais un amalgame, qui n'est peut-être pas juste, mais en tout cas pour moi, il l'est. Pour moi, le Café des Libertés et l'ASDAQ sont dans cette mouvance-là. Cette forme de lutte-là, avec ces mêmes gens qui ont se levé cette lutte, c'est-à-dire qui n'étaient pas des militants, qui n'étaient pas... naïveté de lutte, ouais, il y a certainement ça, et c'est très beau. Et donc, du coup, les limites, c'est quand des gens se lancent dans un truc qu'ils n'ont jamais fait, pas réfléchi, qu'ils se lancent parce qu'ils ont juste... Ils arrivent à un ras-le-bol qu'ils ne peuvent plus. Il y a une désorganisation. Il y a parfois... Ils ne sont pas outillés pour parler collectivement. Enfin, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de trucs. C'est normal, c'est des gens, ils se lancent en vrac, ils sont tous en colère, ils vont ensemble. Et à la fois, ça donne une force d'action qui mène. Et en même temps, ça manque des fois de se poser, effectivement, de réfléchir à ce qu'on fait.
Alors qu'en réalité, il y a quand même pas mal de gens qui se sont positionnés assez rapidement chez les Gilets jaunes. Il y a des gens qui étaient au début plutôt proches, qui avaient des formes d'accointance avec des discours un peu faf, avec des discours un peu identitaires, tout ça. Et il a fallu un certain temps pour qu'il y ait certaines figures comme ça du mouvement au départ, qui étaient des gens qui n'avaient pas d'expérience politique, qui étaient des gens comme ça qui se sont retrouvés sur YouTube et Facebook à devenir comme ça, avec des vidéos vues à des millions de fois et à porter un peu un espèce de mouvement, ou en tout cas à en devenir des voix audibles.
C'est vu comme des gens qui sont perdus, les enfants perdus du capitalisme et qui seraient justement complètement naïfs, en même temps un peu désabusés. On ne sait pas trop, mais en tout cas, on ne pourra pas en faire grand-chose. C'est vraiment problématique à ces endroits-là, puisque moi, la naïveté, je crois que j'y crois pas trop à ce mot-là. Et d'ailleurs, dans le texte du Café des Libertés, c'est dit de manière assez explicite, parce que je trouve leur appel assez intéressant, pour le coup, sur leur page de présentation. Je ne sais plus si c'est sur le site ou sur Facebook. Mais ils disent, une des choses qui nous importe, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des enfants, que l'État nous considère comme des enfants en permanence. Et moi, ça, j'ai envie de le croire au pied de la lettre. Oui, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes une société d'adultes dans le sens où nous sommes responsables de nos actes, nous avons des choses à penser et on peut se faire confiance. Et ça, vraiment, je trouve ça bien de pouvoir le mener et le dire dans le cadre du Café des Libertés, que ça soit assumé publiquement, mais justement, vu que nous ne sommes pas des enfants, attention à nos alliances, attention à notre naïveté, entre guillemets.
On voit bien, il y a des discours qui habillent nos gestes, malgré nous. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment est-ce qu'on y répond ? Ne rien en dire, en fait, c'est aussi laisser faire ce truc-là. C'est aussi, du coup, teinter ce qu'on produit, teinter ce qui se passe, à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que je suppose, ça irrigue, en fait, tout ce qui se joue entre les gens de manière permanente.
Alors maintenant, est-ce qu'on est dans un temps de...
Personnes rencontrées au Café des Libertés.
Où ça serait bien de prendre position en disant... Le Café des Libertés, c'est un mouvement, j'en sais rien en fait. Mais le Café des Libertés, c'est mouvant aussi. Donc lui donner vraiment une couleur et donner de la visibilité pour l'extérieur, moi je trouve que c'est un peu aussi compliqué.
À défaut de pouvoir dire positivement, où tu te positionnes depuis un ensemble d'énoncés politiques clairs, de valeurs claires, qui demandent un certain temps en fait, et ça demande à s'élaborer aussi. Se positionner politiquement à minima, c'est répondre à ces tentatives-là de récupération.
Vous venez d'entendre l'épisode numéro 3 d'Au nom de la liberté, une série documentaire de Radio Zinzine.